Le journal.
Le journal présenté par Adrien Toffolet.
Bonsoir. Pari plus ou moins réussi pour Jean-Luc Mélenchon cet après-midi. 150 000 personnes, selon ses chiffres, ont battu le pavé contre la réforme de code du travail par ordonnance. C'est plus que la mobilisation des syndicats, mais moins que les manifestations contre la loi travail de 2016. Le discours contre Emmanuel Macron est lui toujours plus offensif. Comme certains pensent déjà à la présidentielle de 2022 ou au municipal de 2020, on en oublierait presque les élections sénatoriales. C'est demain et il ne devrait pas y avoir de révolution en marche cette fois-ci. Dans l'actualité internationale, l'Iran renforce comme prévu son arsenal militaire. Téhéran a effectué un tir de missile balistique ce matin, au moment même où les tensions grandissent avec Washington. Et puis, demain, l'Allemagne est appelée aux urnes pour les législatives. Le parti d'Angela Merkel est largement favori, mais certainement pas majoritaire, ce qui veut dire une nouvelle coalition à bâtir dans le pays. Des pancartes « Y a rien de bon dans le Macron » et des slogans « Résistance » chantés tout au long de la manifestation, mais aussi quelques « Ni Dieu, ni Maître, ni Mélenchon », ça ce sont les Black Blocs qui se sont invités dans les rangs. Des milliers de personnes ont répondu positivement à l'appel lancé par Jean-Luc Mélenchon contre le coup d'état social d'Emmanuel Macron, selon ses mots. 150 000 selon la France Insoumise, 30 000 d'après la police, ce n'est pas énorme, mais c'est mieux que la manifestation des syndicats jeudi. Et à la fin, place de la République, un discours toujours très offensif auquel vous avez assisté, Sophie Delpont.
Oui, bonsoir Adrien Toffolet. La bataille ne fait que commencer, a lancé Jean-Luc Mélenchon à la foule place de la République, souhaitant s'adresser au-delà des partis, un appel au peuple après les propos d'Emmanuel Macron sur les fainéants.
Vous êtes comme nous, les indignés qui n'acceptent pas qu'on leur parle sur ce ton.
Attaquant point par point le président de la République qui déclarait que ce n'était pas la rue qui gouvernait, Jean-Luc Mélenchon réplique avec des références historiques.
C'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis. C'est la rue qui a protégé la République contre les généraux félons en 1962. C'est la rue qui a obtenu la reconnaissance du droit de créer des sections syndicales, qui a obtenu la quatrième semaine de congés payés et 30% d'augmentation du SMIC en 1968.
Il déclare que la France insoumise est la force déterminée et tranquille face à la chienlit libérale, double référence à Mitterrand et De Gaulle. Pas d'appel à une nouvelle mobilisation, ce sera après le retour du texte des ordonnances à l'Assemblée nationale que cette décision sera prise, mais il tend la main aux syndicats pour un mouvement global.
Nous sommes prêts à nous ranger derrière eux pour une action forte et dense, comme par exemple déferler à 1 million sur les Champs-Élysées.
Jean-Luc Mélenchon achève son discours par un appel à la jeunesse. Au bout du mouvement social, il y a des élections, les encourage le tribun.
Merci Sophie Delpont, directe de la place de la République avec les moyens techniques de Jean-Marie Porcher. Ni droite ni gauche, ni Florian Philippot, ni Marion Maréchal Le Pen en déplacement à Toulouse dans le cadre de sa tournée nationale pour la refondation du parti. Marine Le Pen a tenu à mettre les choses au clair. La dédiabolisation du FN, c'est-elle? Et celle qui va le réformer, c'est-elle aussi? Balayant d'un revers le départ fracassant de son ex-bras droit, Florian Philippot, la refondation qualifiée d'historique passe par cette tournée nationale en 12 étapes et s'achèvera le 11 mars prochain par un congrès. Le jeu des oppositions politiques et la colère du Front Social auraient presque fait oublier le scrutin qui doit se tenir demain en France, les élections sénatoriales, moins connues puisque ce ne sont pas les électeurs qui votent, mais les grands électeurs, les maires, les conseillers départementaux et régionaux. Ils seront en charge de renouveler la moitié du Sénat, soit 171 sénateurs. Mais avec un paysage politique totalement chamboulé par la présidentielle, l'élection risque aussi de faire évoluer les forces en présence. Au Sénat, petit tour d'horizon des ambitions de chacun avec Cyril Gradiani.
Si La République En Marche a fait le deuil depuis longtemps d'une improbable conquête du Sénat, certains comme François Patriat espéraient une soixantaine de sièges. Mais avec les nombreuses annonces qui ont provoqué la colère des élus locaux, notamment la baisse des dotations aux collectivités, le parti d'Emmanuel Macron a depuis revu à la baisse ses prétentions, une quarantaine de sièges espérés demain soir. La stratégie, c'est désormais de nouer suffisamment d'alliances, à gauche, à droite, au centre, pour atteindre cette fameuse majorité des 3/5 des parlementaires, indispensable pour toute réforme constitutionnelle. Du côté du parti Les Républicains, premier groupe au Sénat mais sans majorité absolue, logiquement la progression municipale de 2014 devrait conduire cette année à une poussée de la droite au sénatorial. Mais comme à l'Assemblée, les sénateurs de droite pourraient se partager entre l'inhistorique et constructif. À gauche, si le Parti communiste, aujourd'hui 18 sénateurs, espère conserver son groupe, le PS risque de subir un nouveau revers historique. Pas de risque en revanche pour la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait l'impasse sur les sénatoriales où elle ne présente aucun candidat.
La nature n'épargne décidément pas le Mexique. Un nouveau séisme a secoué le pays ce matin, seulement 4 jours après le puissant tremblement de terre qui a fait presque 300 morts et de nombreux blessés. On s'attendait à des répliques, mais c'est bel et bien un nouveau séisme selon l'Institut sismologique mexicain de magnitude 6,1, soit un point de moins que le précédent. Aucun détail n'est pour l'instant donné par les autorités sur l'ampleur des dégâts. Des secousses potentiellement d'un autre genre, c'est en Corée du Nord ce matin, de faible intensité, un peu plus de 3 sur l'échelle de Richter, mais impossible pour l'instant de déterminer s'il s'agit là d'un tremblement de terre. Phénomène naturel, avance la Corée du Sud et l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, provoqué par une explosion, laisse entendre de son côté le centre chinois de veille sismique. Les dernières secousses enregistrées en Corée du Nord au début du mois s'étaient révélées être un essai nucléaire en sous-sol, mais Pyongyang pour l'instant n'a rien revendiqué. Le président Hassan Rouhani l'avait annoncé vendredi lors d'une parade militaire. L'Iran renforce ses capacités. Ce matin, le pays a retransmis en direct sur la télévision d'État un essai de missiles balistiques d'une portée de 2000 km. Et ce, au moment même où les États-Unis auraient tendance à vouloir changer leur positionnement envers Téhéran. Donald Trump, face à l'ONU cette semaine, avait notamment dénoncé leur programme balistique et menacé de sortir de l'accord nucléaire. Faut-il pour autant interpréter ce tir comme un geste de fierté et de défiance de la part de Rouhani? Il s'agirait plutôt d'une stratégie géopolitique, selon Azadeh Kian, professeur de sciences politiques à l'université Paris Diderot.
À mon avis, c'est exactement la même politique qu'ils ont menée concernant le nucléaire. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés finalement à un seuil technique technologique avant d'accepter réellement de se mettre autour de la table des négociations. Là, ils savent pertinemment que même les pays comme la France, comme l'Allemagne, qui soutiennent l'accord sur le nucléaire, contrairement à l'administration américaine, se posent des questions sérieuses quant à ces missiles balistiques iraniens. Et donc, je pense que les autorités iraniennes veulent montrer leur capacité de produire ces missiles, de les lancer, etc., mais accepteraient sous certaines conditions de revenir sur les tables de négociation à propos donc de ces missiles, d'une part, et aussi leur implication dans les conflits au Moyen-Orient. Je pense que le président Macron aussi est préoccupé aussi par ces dimensions-là. Et là, je pense que le seul moyen de contrôler les interventions iraniennes dans la région, c'est d'inviter l'Iran à la table des négociations, comme ça a été le cas, par exemple, sur le conflit syrien. Il faut continuer à les impliquer sur le conflit yéménite ou encore, par exemple, ce qui concerne l'Irak.
Propos recueillis par Sarah Petitbon. Non loin de là, les pressions contre le Kurdistan irakien ne cessent de grandir. Lundi, le pays est appelé aux urnes pour se prononcer sur son indépendance. La communauté internationale, dans sa très grande majorité, a fait part de son opposition au scrutin. La Turquie, qui considère le référendum comme une terrible erreur, menace ce midi de répercussions sécuritaires, diplomatiques, politiques et économique. En Allemagne, la victoire d'Angela Merkel et de son parti, la CDU, aux législatives demain est presque assurée. Le parti conservateur est donné largement en tête dans tous les sondages, avec 13 à 15 points d'avance sur les sociaux-démocrates du SPD et leur candidat Martin Schulz. Mais pour obtenir la majorité au Bundestag, il faudra bâtir une coalition, comme le veut le système allemand. Alors, avec qui gouvernera Angela Merkel? Plusieurs scénarios se dessinent à Berlin. Cyril Sauvageau.
Le premier scénario, le plus prévisible, ce serait une nouvelle grande coalition réunissant conservateurs et sociaux-démocrates. Les deux grands partis, CDU et SPD, viennent de gouverner ensemble pendant 4 ans. En reconduisant l'expérience, Angela Merkel serait assurée d'une large majorité au Parlement. Mais si la grande coalition offre une forme de stabilité, elle est aussi accusée de nourrir la montée des extrêmes en brouillant le clivage gauche-droite. Et le SPD, qui risque de sortir laminé d'un mandat dans l'ombre d'Angela Merkel, pourrait vouloir se refaire une santé dans l'opposition. Deuxième scénario, une alliance avec le Parti libéral, crédité de 10% des suffrages, mais l'addition des voix ne suffira sans doute pas à atteindre une majorité. La solution pourrait donc passer par un mariage à trois entre la CDU, les libéraux et les écologistes. L'expérience n'a jamais été tentée à l'échelon fédéral, elle promet des négociations difficiles, les trois partis ayant des positions radicalement différentes sur des sujets majeurs comme l'énergie, l'industrie automobile ou les affaires européennes.
Les prévisions météo pour demain, du soleil un petit peu partout en matinée et dans l'après-midi, sauf sur la pointe bretonne. Les températures minimales varieront entre 10 et 22 degrés.